écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine, bonjour André, bonjour Fabrice Hérault.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Fabrice Hérault, qui est un auteur nantais. Merci Fabrice d'être avec nous. Nous allons échanger à propos de votre premier roman, intitulé 12 minutes 13, dérobé à l'éternité, tout un programme. Cet ouvrage est en auto-édition. Et est paru en juillet 2022. Alors, et il nous propulse en 2055, mais nous vous en dirons plus au cours de l'échange. Alors, comme à chaque fois, quand nous recevons un auteur, nous avons une question fétiche, parce que nous sommes curieux de savoir, connaître, que vous puissiez nous dire comment vous êtes arrivé à l'écriture. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'écriture, un loisir, un hobby, bien plus que ça. Voilà, donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, Fabrice ?
Oui, alors d'abord, je voudrais répondre que je n'ai pas fait des grandes écoles de littérature. Je ne suis pas particulièrement un grand romancier, mais j'avais à cœur d'écrire une histoire parce que j'ai beaucoup d'imagination et puis que la science-fiction, c'est ce qui me caractérise particulièrement. Donc j'avais envie d'écrire une histoire sur... sur des créatures extraterrestres, mais gentilles, c'est-à-dire des créatures qui ont une sagesse, une grande sagesse, des êtres supérieurs à la nature humaine. Et pour confronter l'homme aussi à son univers sombre. Donc ça a débuté il y a déjà 5 ou 6 ans. Et tout d'un coup, ça m'a envahi, quoi. J'ai ressenti une énorme joie intérieure, une énorme envie d'écrire. Et à cet instant, j'ai commencé à prendre des petits papiers, tout ça. Voilà. Et petit à petit, j'ai décidé de construire une histoire, progressivement. Et donc, j'ai voulu... parce que dans la vie de tous les jours, Je vis des choses qui me font de la peine. Par exemple, il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances dans ce monde et beaucoup d'injustices aussi.
D'accord.
Et donc tout ça, ça va.
Donc tout ça s'est mélangé un peu à ma vie de tous les jours et je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans une histoire. Mais je n'avais rien préparé d'avance. Tout me venait petit à petit dans l'esprit. C'est quelque chose que je ne m'explique pas en définitif.
On va pouvoir, si vous voulez, Fabrice, revenir avec d'autres questions. Vous allez pouvoir nous compléter cette histoire. Martine va faire un petit résumé de votre travail pour donner une envie de lecture à tout le monde.
Donc, dans son roman, 12 minutes 13 dérobé à l'éternité, Fabrice Hérault nous transporte dans le temps et dans l'espace. Au retour d'une expédition spatiale, une masse suspecte est détectée sur la Lune, ou plutôt dans la Lune, puisqu'une fouille est nécessaire pour extraire une sorte de menhir incrusté de cristaux et de pierres. L'astrophysicien Barrington Ferraioli finit par découvrir à l'intérieur un objet léger qui peut se déplacer et dégage une grande énergie. Les expériences que fait Barrington avec cet objet, vont bouleverser sa vie et celle de sa fille Cheryl, tout particulièrement.
«
Alors, vous avez commencé à nous dire un peu, Fabrice, dans ce roman, ce que l'on peut entendre, hein, c'est que le remède ou le salut, hein, aux douleurs, aux choses difficiles que vous évoquiez, viendrait de la technologie, et la technologie d'un ailleurs, en fait. Donc la question, c'est, est-ce que vous pensez que la communauté humaine d'aujourd'hui est un peu incapable de trouver des remèdes? Et notamment, vous traitez de sujets comme la santé, hein, particulièrement l'écologie.
Oui, oui, j'ai introduit subtilement des circonstances de la vie humaine sur Terre. Parce que même si c'est un sujet d'actualité, l'écologie, c'est la dégradation de la planète, parce que je pense que l'homme est intelligent, il est doué de raison, mais il a un côté sombre. Il lui manque, c'est difficile à dire, il lui manque du discernement, de la lumière intérieure. Donc, alors, j'ai traité ça sous une forme, pas sous une forme religieuse, hein, mais il possède un caractère spirituel, le livre, d'une certaine façon. Mais parce que j'ai voulu montrer que l'homme, à travers son intelligence, sa réflexion, sa raison, il est en incapacité, en invalidité, si vous voulez, de résoudre tous les problèmes sur Terre. Alors, donc j'ai eu, je me suis dit, la seule manière que l'homme puisse un jour se sortir de ses ornières, qu'il puisse, c'est de rencontrer des êtres, non des êtres qu'on serait en conflit avec eux dans la violence, comme on le trouve au cinéma singulièrement, si vous voulez, mais où ces créatures vont apporter un besoin vital à l'homme, des éléments qui va l'aider, par exemple, qu'il a besoin d'une certaine philosophie qui viendrait d'ailleurs. Il faut qu'il sorte, non, vous comprenez ce qu'il veut,
oui,
qu'il sorte
fait.
de son milieu dans lequel il vit. Et je me suis dit, c'est peut-être finalement la seule manière qu'un jour l'humain puisse grandir vers quelque chose. J'ai traité ça d'une façon philosophique et spirituelle.
Comme un décalage.
Comme un décalage. Tout en faisant, bien sûr, attention à ne pas tomber dans des mots ou des choses bibliques.
D'accord.
Mais traiter avec un caractère soigneusement et subtilement. Je ne sais pas si je suis claire.
Si,
on vous suit.
Alors, justement, André va nous lire un premier extrait.
Barrington, brillant scientifique et professeur d'astrophysique, entre le premier dans le laboratoire et découvre ce grand caisson de verre. Il voit à l'intérieur cet étrange bloc compact. D'après vous, Barrington, qu'est-ce que ça peut bien être avec ces minuscules cristaux incrustés dessus? Je pense que ce bloc uniforme appartient très certainement à une civilisation d'extraterrestres. Il enfile une blouse blanche et décide d'ouvrir le caisson de verre. Il passe sa main droite délicatement sur les cristaux. Il perçoit comme un courant magnétique qui engourdit immédiatement son bras et envahit tout son corps avec une forte sensation de picotement. Il se précipite pour prendre le scanner et faire une analyse complète en parcourant toute la longueur de l'obélisque. Le scanner s'arrête à mi-chemin. Barrington distingue alors une ombre à l'intérieur, un objet solide à peine visible. J'ai dû faire fondre l'argile pour extirper cet objet. Qu'est-ce que c'est? Comment cet objet se maintient-il en suspension? Apparemment, cette source lumineuse par en dessous semble l'alimenter. Cet objet est réellement curieux. Il n'a aucune cavité, aucun bouton nulle part. Il est parfaitement lisse, sans aucune trace de vieillissement. Lorsque ce petit appendice est apparu du dessous et qu'il s'est immédiatement illuminé, j'ai été pris de panique, je l'ai lâché. Au lieu de tomber sur le sol, il est resté dans les airs. J'ai constaté également qu'il ne pesait rien. Pendant la nuit au labo, un mince rayon rouge sort de la matrice. Il se prolonge et forme une parfaite géométrie rectangulaire. Au centre du rectangle apparaît un minuscule point chaud très lumineux. Ce point de fusion va engendrer tout un processus de fabrication. Le lendemain matin, Marrington remarque que la bâche qui dissimule l'objet a bougé. Il y jette un coup d'œil, très surpris de ce qu'il y découvre. Il en informe immédiatement le lieutenant. « Marrington, vous avez du nouveau sur l'objet ?»«
Oui. »
Il s'est passé quelque chose d'étrange. L'objet a changé de forme. Il est plus grand que la dernière fois.
Alors, Fabrice Hérault, on retrouve aussi dans votre livre, donc on a compris hein, cette histoire de comme décalage, amener quelque chose qui fasse un peu réfléchir, un peu tiers hein, par rapport au souci actuel, pour ne pas dire aux mots actuels que traverse l'humanité. Voilà, une catastrophe que traverse l'humanité. Il y a quand même quelque chose que l'on perçoit dans votre livre, une fois que cet objet magique a été trouvé, c'est aussi cette quête quand même d'immortalité. En tout cas, nous, on l'a perçu comme ça, hein, puisque ce qui a été trouvé dans l'au-delà aurait des vertus pour soigner les maladies. On a perçu un peu ça, c'est-à-dire cette quête un peu éternelle de l'homme, hein. D'une forme d'immortalité. Est-ce que c'était votre intention ou est-ce que c'est une interprétation ?
Non, c'était un point de départ, si vous voulez, pour la suite. C'est-à-dire que ces créatures avaient conçu un objet qui a, comme vous l'avez souligné, qui a un côté curatif, qui permet de soigner. Une technologie supérieure à l'être humain, mais ce n'est pas le but de mon roman, mais c'est un point de départ. Ces créatures avaient besoin, et j'ai considéré que c'était une évolution, ils auraient emprunté le même chemin que nous dans une forme de technologie, et ensuite ils ont passé à autre chose. Donc c'est ma façon à moi, là encore subtilement, de présenter des êtres qui sont devenus supérieurs dans la technologie, mais en somme, ils sont allés tellement loin que finalement, en définitif, l'âme finalement n'a pas besoin de technologie. Il y a l'au-delà de cette il y a quelque chose, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est que l'homme, lui, tient fermement à se servir de cette technologie pour soigner, mais ces créatures, eux, disent bien nous ne sommes pas entre votre présence pour vous aider dans ce sens-là, dans cette voie, dans ce domaine-là. Mais je suis parti au départ avec une technologie extraordinaire. Et puis, elle n'a pas seulement un côté curatif, elle permet aussi de voyager, c'est-à-dire de voyager hors du corps, et d'emmener finalement l'homme et ses créatures, un voyage où le corps reste ici, mais l'âme ou l'esprit voyage, la conscience voyage. Donc voilà, c'est une manière de diriger aussi. Mais le fin mot de l'histoire, c'est que ces créatures ont un but.
Oui, alors on verra ça tout à l'heure, parce que ça va être le moment de faire une pause.
Très bien.
Et là, on va voyager un petit peu, mais dans le passé, puisque Fabrice a choisi Johnny Burnett, Dreaming.
On peut parler ?
Dreaming. I'm always dreaming, dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching, hoping someday I'll find someone to love me. Someone who needs me, but until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true.
dreaming. I'm always dreaming. Dreaming. Love will be mine. Searching. I'm always searching. Hoping. Someday I'll find someone, someone to love me, or someone who needs me. But until then, well, I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Fabrice Hérault pour son roman 12 minutes 13, dérobé à l'éternité. Florence.
Alors Fabrice, donc vous l'avez dit, hein, vous avez fait un choix de prendre un ailleurs, de prendre des personnages extraterrestres au sens littéral du terme, qui étaient bons. Hein, contrairement à ce qu'on voit parfois au cinéma, on est plutôt sur le thème de l'envahissement, hein, des envahisseurs dont il faut se protéger. On sait, vous et nous, que normalement, il y a peu de chances que ces êtres d'ailleurs arrivent. Mais est-ce que...
C'est qu'une... Excusez-moi,
allez-y, je vous en prie.
Alors, ça a été pour moi comme une sorte de thérapie, en fait.
D'accord.
Parce que j'avais besoin d'évacuer cette souffrance. Parce que même si je suis introverti, je trouve inadmissible de voir à quel point nous, les humains, nous nous déchirons entre nous, nous nous faisons beaucoup de mal. Et c'est quelque chose que... Je ne vais pas dire que je porte le poids du monde sur le dos, mais
partie, en tout cas.
Une partie, oui. Et donc, ça a été une manière pour moi d'évacuer...
Un peu thérapeutique.
Oui, et je ne me savais pas capable d'une telle réflexion sur ce genre de sujet.
Mais c'est le fait d'écrire peut-être aussi. Comme nous avait dit, on a eu une invitée il n'y a pas très longtemps qui a analysé un peu pourquoi on écrit, quoi. Et qui disait justement, dans le fait d'écrire, qui faisait référence à cette vertu thérapeutique.
Oui.
Et c'est ce que peut-être les gens cherchent.
C'est vrai que c'est quand même curieux de pouvoir... En ce qui me concerne, écrire un livre de ce genre, n'ayant très peu d'ouverture d'esprit dans le monde dans lequel je vis. Pour quelqu'un de renfermé, j'ai trouvé que c'était un peu étrange de vivre ce ressenti à l'intérieur de moi, comme si j'avais... De toute façon, nous avons tous quelque chose à l'intérieur de nous qui nous inspire. Mais de ressentir cette inspiration était étrange, j'ai trouvé.
Est-ce qu'on pourrait penser que c'est... Alors, vous disiez tout à l'heure, hein, deux choses. Souvent, c'est à la fois, vous avez dit en introduction de notre émission, hein, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'études, oui. J'ai pas fait d'études de littérature. Donc, pouvoir produire un ouvrage qui fait 410 pages, pour pas dire quasiment, mais 410 pages, c'est vraiment une belle opération. Il y a ça. Et puis, est-ce qu'effectivement, là, vous parlez de thérapie, hein, dans cette écriture, mais est-ce que c'est pas...
Excusez-moi, thérapie du cœur, du ressenti.
Bien,
hein.
sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais est-ce que justement, c'est pas quand le réel ne nous offre pas d'options ou quand on semble être dans une impasse que vous décrivez, est-ce que c'est pas une envie d'avoir quelque part une solution, une option qui nous ferait sortir
de... Oui, tout à fait. Et puis l'envie de le partager. Donc vous imaginez bien que si je vais utiliser, excusez-moi d'utiliser ce terme, mais je ne souhaite pas particulièrement que mon livre passe à la trappe, pour une bonne raison, que il a été fait comme pour parce que je veux faire passer un message. Il y a un message à l'intérieur de ce livre. Alors, j'aimerais le partager.
D'accord. Vous voulez, quand vous dites qu'il y a un message à travers ce livre, est-ce que vous voulez le synthétiser pour nous le dire
On va peut-être d'abord écouter...
La lecture.
Une lecture,
parce pas de problème.
Que la lecture, en fait...
En dit quelque chose, peut-être.
En dit quelque chose.
Voilà.
Donc, André, pour une deuxième lecture.
Je me demande qui a bien pu nous envoyer ce message en provenance de l'univers. On va bientôt le découvrir. Regardez sur l'écran du plasma, Maris. On dirait que se dessine une silhouette, un visage. Une fois l'image stabilisée, apparaît clairement le visage d'une étrange créature. Barrington et Solange la contemplent avec stupéfaction. L'intrus semble vouloir s'exprimer. Solange se décide à ouvrir le dialogue. « Nous sommes des terriens, des humains. Comprenez-vous notre langue ?»« Notre joie est immense de vous rencontrer après une éternelle attente. »« Qui êtes-vous ?» demande Solange. « Je suis l'un des hauts dignitaires de la lumière éternelle, gardien dépositaire de toute fertilité universelle. Cet ouvrage que vous nommez l'univers vous a engendré. Vous n'êtes pas les seuls êtres peuplant l'univers. Nous vous invitons désormais à ne plus vous enfermer dans un seul système terrestre qui vous isole des luminaires. Vous avez l'air de nous connaître. Pourquoi nous avoir contactés maintenant ? Demande Solange. Nous percevons tous vos désirs. Nous comprenons vos afflictions qui vous enferment dans la douleur. Vous avez de l'enthousiasme pour défendre vos injustices et si peu de volonté à vous unir ensemble pour de bonnes causes. Votre technologie n'a pas su changer votre nature dévastatrice. Vous êtes cependant parvenu à découvrir l'entrée de l'une des portes donnant accès à l'éternité. Vous allez dès à présent vous approprier un chemin inexpérimenté. Votre humanité va être conviée à recevoir notre héritage qui vous libérera de vos sombres ténèbres. Il en naîtra une alliance interstellaire avec notre peuple que l'un d'entre vous découvrira au moment opportun.
Donc Fabrice, ce message
oui.
que vous vouliez faire passer, hein, on voit bien que vous y tenez absolument, c'est-à-dire c'est l'idée que on est certes aujourd'hui dans une impasse, mais qu'il y a du possible, hein, qu'il y a du possible si on passe au-delà peut-être de certains, certaines comment dirais-je, caractéristiques humaines. Hein, la question de la...
Je n'ai pas la réponse à cette question.
D'accord.
Je ne sais pas comment la je ne sais pas comment je ne sais pas comment prendre cette idée que l'homme puisse un jour évoluer vers la sagesse. J'ai pas la réponse.
D'accord. Sauf peut-être en écrivant des choses, en imaginant des possibles. Pour aussi nourrir.
Mais je vais quand même ajouter là-dessus le fait que j'ai je pense pas que notre monde va aller en s'arrangeant, parce que je pense que nous sommes tous, même si nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur la Terre et que nous vivons tous ensemble, nous sommes quand même des individus qui vivent sur Terre. Comment expliquer ça ? Nous avons des individuellement, nous vivons notre vie en et nous faisons en fonction de ce que nous avons fait de bien et de mal. Donc, mm-hmm. je pense que les choses ne sont pas pour s'améliorer sur la Terre, mais que nous avons vécu notre vie ici-bas et qu'ensuite je reviens sur cet ailleurs, cette idée qu'il existerait un paradis ou un monde d'amour, parce que je n'exclus pas l'existence d'un être d'un être d'amour, Dieu si vous préférez, il ne faut pas avoir peur des mots.
D'accord.
Voilà, donc chacun a fait ce qu'il avait à faire sur Terre.
Okay.
Mais qu'on n'est pas sur Terre pour arranger finalement. Il y a les choses suivent leur cours. C'est un peu...
D'accord. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, en fait. C'est que le roman, quand même, a ceci de particulier. C'est qu'il est... Il y a des illustrations.
Oui.
Voilà. Donc texte et illustration par Fabrice Hérault.
Oui, tout à fait. Oui, je dessine aussi. J'ai aussi la capacité, oui, de dessiner. Et je n'ai jamais appris. Je dessine naturellement. Voilà, quand j'avais 20 ans, je faisais des vaisseaux spatiaux, mais je n'étais pas très doué pour les perspectives. Je n'ai pas de base en dessin. Mais fur et à mesure que je me suis mis dans le bain, comme dirait, eh bien, progressivement, j'ai amélioré mes capacités en dessin et je suis parvenu à représenter des illustrations qui sont, comment dire, qui doivent être à la hauteur du texte quand même. Parce que les premiers dessins que j'ai faits, ils n'étaient pas concluants quand même.
Donc vous êtes un autodidacte en fait, hein, pour à la fois l'écriture et à la fois le dessin.
En tout cas, merci d'être venu parce qu'en fait, on arrive au terme de l'émission. Donc pour cet écrit d'ici. Donc juste avant de se quitter, je vous signale évidemment le Festival Atlantide, hein, qui aura lieu du 2 au 5 mars. Et également du 14 février au 13 mars, une exposition autour des villes invisibles, le roman d'un grand auteur italien, Italo Calvino. Et il y aura aussi des références, des ateliers d'écriture, et le tout se déroulera à l'espace Cosmopolis. Voilà. Alors, pour finir, Fabrice a choisi Ricky Valence, Tell Laura, I Love Her.
Tommy were lovers, wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, Tommy said, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura I may be late, I've something to do that cannot wait. He drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, tell Laura I love her, tell Laura I need her, tell Laura not to cry, my love for her will never die. Now in the chapel Laura prays for Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry, tell Laura I love her, tell Laura.